bonjour à tous. Vous êtes sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC, édition du lundi 11 mars 2024. John Linden à la présentation. En Côte d'Ivoire, les obsèques de l'ancien président Henri Konan-Bédié vont commencer le 20 mai. Pas de trêve au Soudan durant la période du Ramadan sans le départ des forces de soutien rapide, a déclaré le général Yasser Al-Atta de l'armée soudanaise. Pas de trêve également à Gaza où le Ramadan a commencé ce lundi sous les bombardements de l'armée israélienne. Réunion d'urgence de la communauté des Caraïbes en Jamaïque sur la situation en Haïti. Et puis ne ratez pas la Minute Éco et les sports, mais pour commencer, le journal. Les obsèques de l'ancien président ivoirien Henri Konan-Bédié, décédé le 1er août 2023, débuteront le 20 mai, ont annoncé le chef de l'État Alassane Ouattara et le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam. C'était lors d'une rencontre ce lundi. Le point avec Rosine Mounezero.
Le souhait de la famille, c'est que les obsèques commencent à partir du lundi 20 mai, a déclaré Tidjane Thiam à l'issue de la rencontre au palais présidentiel à Abidjan. La période des obsèques de feu, le président Henri Konan-Bédié est fixée du 20 mai au 2 juin de cette année, a précisé le chef de l'État Alassane Ouattara. Henri Konan-Bédié, deuxième président de la Côte d'Ivoire, est décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Il a été remplacé en décembre à la tête du PDCI par Tidjane Thiam, banquier de 61 ans, qui a été son ministre dans les années 90. Il s'agissait de la première rencontre entre le président Ouattara et M. Thiam depuis l'élection de ce dernier à la tête du PDCI. Les deux hommes ont échangé une chaleureuse poignée de main à l'issue du point de presse. Alassane Ouattara n'a pas encore indiqué s'il comptait se représenter ou non pour un quatrième mandat. Tidjane Thiam est le favori pour porter les couleurs du PDCI. Samedi, l'ancien président Laurent Gbagbo a été le premier à se déclarer candidat pour 2025. Pour l'heure, il est inéligible en raison d'une condamnation par la justice ivoirienne pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010-2011.
En RDC, les déplacements de la population se poursuivent dans l'est du pays à la suite de l'offensive de la rébellion du M23. Les rebelles ont gagné du terrain avec plus de 100 000 nouveaux déplacés selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU dès mercredi. Les combats se sont étendus dans le territoire de Rutshuru. Au Tchad, le premier ministre Succès Masra a annoncé dimanche lors d'un meeting sa candidature à la présidentielle du 6 mai, 8 jours après celle du président de transition, le général Mahamad Idriss Déby Itno. Monsieur Masra, ancien opposant, avait signé un accord avec Monsieur Déby avant d'être nommé premier ministre. L'opposition dénonce une candidature pour donner un semblant de pluralité à un scrutin qu'elle considère gagné d'avance par Mahamad Déby. Le Front patriotique rwandais, parti au pouvoir au Rwanda, a désigné le président Paul Kagame comme son candidat à l'élection présidentielle du 15 juillet pour un quatrième mandat de 7 ans. Kagame, âgé de 66 ans, a accepté la nomination, mais a demandé au FPR de préparer la transition après lui. Jusqu'à présent, seul Franck Habineza du Parti démocratique vert, une formation d'opposition, s'est déclaré candidat face à Monsieur Kagame. Et puis au Burundi, l'opposant Agathon Rwasa a été évincé dimanche de la direction du principal parti d'opposition du pays, le Conseil national de la liberté. Il a été remplacé lors d'un congrès extraordinaire par Nestor Girukishaka, au cadre d'une entreprise publique réputée proche du parti au pouvoir. Les partisans de Rwasa ont dénoncé une mascarade ourdie par le ministre burundais de l'Intérieur. Le congrès s'est tenu à Ngozi, dans le nord du Burundi, sous une forte présence policière. Au Soudan, un général de l'armée exclut toute trêve pendant le Ramadan qui vient de commencer, à moins que le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide ne quitte les sites qu'il occupe ou contrôle. Le point avec Nanit Talani.
Dans sa déclaration dimanche sur Telegram, la chaîne de l'armée, Yasser Al-Atta, commandant adjoint de l'armée, soutient qu'il ne peut y avoir de cessez-le-feu pendant le Ramadan, à moins que les forces de soutien rapide ne se retirent des foyers civils et des installations publiques qu'elles occupent. « Il n'y a pas de trêve sur ordre de l'armée et du peuple », a-t-il martelé. Il a également déclaré que Mohamed Hamdan Daglo, le chef des paramilitaires, ou sa famille ne devraient jouer aucun rôle dans la politique ou la future armée du Soudan. Ces déclarations interviennent après que l'armée a revendiqué des avancées à Omdurman, une partie de la capitale, et après un appel du secrétaire général de l'ONU en faveur d'une trêve pendant le Ramadan. Les forces paramilitaires de soutien rapide qui saluent cet appel au cessez-le-feu ont accusé hier l'armée d'avoir rejeté leur proposition de libérer les 537 militaires prisonniers de guerre par l'intermédiaire de la Croix-Rouge en signe de bonne volonté pendant le Ramadan. L'armée affirme n'avoir reçu aucune communication du CICR concernant une telle offre, qualifiant de mensonge les affirmations des paramilitaires.
En Libye, trois leaders ont convenu de la nécessité de former un nouveau gouvernement unifié pour superviser les élections qui sont dans l'impasse depuis 2021. Mohamed Menfi et Mohamed Takala de Tripoli ainsi qu'Aguila Saleh de Benghazi ont déclaré qu'ils allaient créer un comité technique pour résoudre les divergences. Ils ont également appelé la mission des Nations Unies en Libye et la communauté internationale à soutenir leurs propositions.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Ramadan a commencé ce lundi dans la bande de Gaza sans aucune trêve en vue dans la guerre entre Israël et le Hamas. De nouvelles frappes ont visé ce lundi les villes assiégées. Davantage avec Alexandrine Holognon.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à faire taire les armes à Gaza et à libérer les otages pour faire honneur à l'esprit du Ramadan. Des frappes israéliennes ont visé notamment la ville de Gaza dans le nord, Khan Younes et Rafah dans le sud. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé dimanche en réponse à des critiques américaines son intention de mener une offensive terrestre sur la ville de Rafah, considérée comme le dernier rempart du Hamas près de la frontière avec l'Égypte. En dépit de nouvelles discussions au Caire, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, les trois pays médiateurs, ne sont pas parvenus à arracher un accord sur une trêve avant le Ramadan. Le Hamas réclame un cessez-le-feu définitif et un retrait des troupes israéliennes avant tout accord sur une libération des otages. Israël exige que le Hamas fournisse une liste précise des otages encore vivants, mais le mouvement palestinien dit ignorer qui était vivant ou mort parmi eux.
Le président américain Joe Biden, qui a critiqué la conduite de la guerre à Gaza à tort, a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans une interview dimanche au journal Politico. Le président américain a dit samedi que Benjamin Netanyahou faisait plus de mal que de bien à Israël par sa conduite de la guerre à Gaza. Je ne sais pas exactement ce que le président voulait dire, mais s'il entendait par là que je mène une politique personnelle contre le souhait de la majorité des Israéliens et que je vais contre les intérêts d'Israël, alors il a tort sur les deux points, a estimé M. Netanyahou. La situation en Haïti fait l'objet d'une réunion de crise lundi en Jamaïque, gangrénée par les bandes criminelles. La capitale Port-au-Prince est en état de siège au moment où les chancelleries occidentales évacuent leurs diplomates. Le point avec Mohamedou Mfa.
La CARICOM, communauté des Caraïbes, a convié une réunion d'urgence en Jamaïque, les États-Unis, la France, le Canada et l'ONU. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a fait le déplacement. Il sera à Kingston pour discuter des efforts visant à mettre en place rapidement une transition politique en Haïti via la création d'un collège présidentiel indépendant doté d'une large assise ainsi que du déploiement d'une mission multinationale de soutien sécuritaire, a déclaré son porte-parole. La capitale Port-au-Prince a continué à s'enfoncer dans les violences liées aux gangs qui réclament la démission du premier ministre Ariel Henry. Monsieur Henry se trouve toujours à Porto Rico, ce territoire américain des Caraïbes. L'Allemagne et l'Union européenne ont commencé l'évacuation de leur personnel diplomatique. L'armée américaine a indiqué hier avoir mené une opération destinée à renforcer la sécurité de son ambassade et poursuivre l'évacuation du personnel non essentiel. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé ce lundi tous les acteurs politiques à des négociations sérieuses pour rétablir les institutions démocratiques. Le Conseil de sécurité a donné son accord à l'envoi d'une mission dirigée par le Kenya pour aider la police locale, mais son déploiement se fait toujours attendre.
L'ancien président américain Donald Trump s'est dit favorable lundi à l'interdiction de TikTok aux États-Unis, prenant le contre-pied de l'actuel chef de l'État américain.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Au Sénégal, un projet financé par la BAD a amélioré l'accès à l'eau potable et l'assainissement des populations des régions de Louga, Kaffrine et Tombacounda, ainsi qu'à Dakar et Zingachor. Dans la région de Louga, par exemple, grâce aux robinets d'eau, les populations ne font plus de 5 heures pour aller chercher de l'eau potable. Financé à 15 millions de dollars, le projet s'achève en décembre 2024. En Angola, cette année, la croissance économique devrait se redresser à court terme, soutenue par l'amélioration de la production pétrolière et la reprise du secteur non pétrolier. L'inflation devrait rester temporairement élevée et diminuer progressivement à mesure que les effets de la suppression des subventions et la répercussion de la dépréciation du taux de change nominal diminueront. Pour terminer, la compagnie zambienne d'électricité publique, ZESCO, devrait commencer à rationner l'approvisionnement en énergie à partir de ce 11 mars pour aider à atténuer l'impact des pénuries d'électricité. La société envisage aussi d'installer des générateurs diesel dans l'usine. La Zambie produit environ 87% de son électricité à partir de l'hydroélectricité et la baisse des niveaux d'eau due à la sécheresse actuelle, la pire depuis 2 décennies, a freiné la production d'électricité.
C'est l'heure de retrouver les sports. C'est avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Brahma Traoré, nommé sélectionneur du Burkina Faso.
Oui, le technicien burkinabé a été nommé à la tête des étalons pour un contrat à long terme. C'est l'annonce faite par la Fédération burkinabé de football. Après plusieurs expériences, nous avons pensé qu'il était temps maintenant de faire confiance à un entraîneur national, a déclaré le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, promettant le début d'une grande réforme pour le football burkinabé. Le patron de la FBF ajoute que Brahma Traoré aura pour principale mission de construire une équipe jeune et qualifier le Burkina Faso pour la CAN au Maroc en 2025 et le Mondial 2026. Philippe Batuneau, journaliste sportif au journal Le Quotidien et à l'étalon.net.
Il a remporté en 2019 donc les Jeux africains avec les étalons U20. Il a également été intérimaire donc de Kamoumalo lorsque Kamoumalo donc n'a pas été prolongé à l'issue de la CAN au Cameroun. D'un autre côté, Brahma Traoré qui a une longue expérience car il a été l'adjoint déjà de 3 sélectionneurs, notamment Didier Nortot et plus récemment Paul Puit. Il a été annoncé donc qu'on veut créer un projet à long terme avec autour de Brahma Traoré, à qui donc plusieurs objectifs ont été assignés, notamment se qualifier pour la Coupe du Monde, se qualifier également pour la CAN, mais aussi et surtout construire une équipe compétitive.
Philippe Batuneau, journaliste sportif au journal Le Quotidien et à l'étalon.net.
Au Cameroun, 62 joueurs exclus pour avoir triché sur les âges.
La Fédération camerounaise de football a déclaré inéligibles ses 62 joueurs pour les play-offs du championnat national. La FECAFOOT évoque une double identité ayant faussé leur âge réel. Parmi les joueurs suspendus, Wilfried Nathan Douala, milieu de terrain de Victoria United. Il a fait partie des Lions Indomptables qui étaient à la récente CAN 2023 en Côte d'Ivoire, où il a été présenté comme le plus jeune joueur de la compétition à 17 ans. Cette décision de la FECAFOOT touche, entre autres, 13 joueurs de Nyong Sport Academy.
Enfin, balle au panier avec la 4e saison de la Basketball Africa League qui s'est ouverte en Afrique du Sud.
Les matchs de cette conférence à Kalahari se jouent à la Sandbet Arena de Pretoria. C'est bien parti pour les Marocains de FUS, 2 victoires en 2 matchs. Les Angolais de Petro de Luanda, eux, se sont relancés après avoir battu 188 le club hôte, les Cape Town Tigers. Dynamo Basketball Club a déclaré forfait parce que les autorités burundaises refusent que leur équipe porte les maillots où s'est inscrit Visit Rwanda, sponsor officiel de la compétition. Le président de la Basketball Africa League, Amadou Garofal, parle d'un refus de se conformer aux règles de la Ligue concernant les maillots et les uniformes.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Linden, toujours en votre compagnie. Place à présent au dossier du jour. Et on commence par le Sénégal, où la campagne électorale est lancée depuis ce week-end. Une campagne hors norme, puisqu'après avoir été ajournée, la date de l'élection a été fixée la semaine dernière à seulement 17 jours de l'échéance. C'est donc une campagne raccourcie qui démarre et qui se tiendra pendant le Ramadan. Retour sur le premier week-end des campagnes avec ce reportage signé Alison Fernandez et Mustapha Diène.
Des milliers de personnes réunies dans la banlieue de Dakar, c'est de loin le plus grand rassemblement de cette campagne au Sénégal. Pourtant, c'est un meeting qui se tient sans le candidat à l'élection. Bassirou Diomaye Faye est toujours emprisonné depuis presque un an. Après le vote de la loi d'amnistie la semaine dernière, sa libération pourrait avoir lieu prochainement. Dimanche matin, c'est devant le domicile du leader du parti dissous PASTEF, Ousmane Sonko, que les leaders et militants se sont réunis pour lancer leur caravane. El Malik Ndiaye est le secrétaire à la communication de l'ex-PASTEF.
Là, c'est l'apothéose. On démarre à partir de là où tout a démarré, chez le président Ousmane Sonko, qui est arbitrairement emprisonné aujourd'hui et notre candidat. Mais le peuple est en train de démontrer que, avec ou sans notre leader et notre candidat, nous allons gagner dès le premier tour. Et c'est ça l'essentiel.
Dans les QG de campagne, de nombreux défis logistiques sont à relever. Car la nouvelle date d'élection, le 24 mars, a pris de court de nombreux candidats et la campagne électorale, lancée de manière expresse, a été raccourcie. Idriss Ambeng, directeur de campagne adjoint du PUR.
On attendait 21 jours, on donne 15 jours. Et dans la campagne initiale qu'on avait prévue, c'était prévu de faire le tour du Sénégal et de passer assez de temps avec les militants et les sympathisants et les populations. Malheureusement, en 15 jours, ça ne va pas être possible. On essaiera de faire le maximum de territoire.
Autre contrainte dès cette semaine, celle du Ramadan dans ce pays à majorité musulmane. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, compte bien adapter sa campagne.
La journée, on est obligé de respecter les préceptes de la religion. On va adapter notre campagne. Peut-être qu'elle sera nocturne, ou en tout cas, ce sera par ce biais-là. Mais c'est vraiment, on nous impose une campagne exceptionnelle et spéciale. Mais on s'adaptera.
La plupart des 19 candidats à cette élection partiront battre campagne en région dans le courant de la semaine. Près de 7 millions d'électeurs sénégalais sont appelés aux urnes le 24 mars prochain, donc dans moins de deux semaines. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Mali, la semaine dernière, le premier responsable d'énergie du Mali a annoncé des mesures pour améliorer la fourniture de l'électricité en ce mois de Ramadan qui débute ce lundi. Le calendrier prévoit une moyenne de 12 heures d'électricité par jour, mais suscite déjà beaucoup de controverses. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Le programme de fourniture EDM dans mon quartier est faux. Mieux valait ne même pas le programmer pour ensuite se ridiculiser. Peste Ibrahim Khalil Touré dans un post sur les réseaux sociaux. Contacté pour plus de détails, il revient sur les circonstances qui l'ont amené à pousser ce coup de gueule.
Ça s'annonce pas bien pour le moment parce que hier le 10 mars, ils avaient produit des programmations qui malheureusement n'ont pas été suivies et respectées. En tout cas, dans mon quartier à moi, je relevais de la zone 4 qui devait avoir l'électricité un temps, mais malheureusement, cela n'a pas été vraiment respecté.
Les internautes n'ont pas manqué de soulever le caractère incompréhensible du calendrier qui semble trop chargé à leur coup. Bourema Soulou, journaliste, en a fait le constat.
C'est un vrai casse-tête pour beaucoup. Bon nombre de Maliens parce que ça a commencé hier et puis l'EDEM n'a pas pu respecter le chronogramme qu'il a proposé à certains quartiers.
Pour Assetou Founé Samaké, c'est un début et les couacs peuvent se comprendre. Le fait déjà pour la direction de l'EDM d'annoncer une fourniture de 12 heures par jour est selon elle à encourager.
Je pense qu'on doit leur accorder le bénéfice du doute jusqu'à présent parce que ce n'est qu'hier qu'ils ont publié le nouveau programme. Donc le mois de Ramadan aussi c'est un mois assez spécial avec la chaleur actuellement. Si on peut passer de 3-4 heures de temps d'électricité par jour à 12 heures de temps, je pense que ce serait l'idéal parce qu'il faut songer à soulager la population qui ne demande que l'électricité. Donc s'ils essayent de fournir assez d'efforts, je pense que ça sera bien.
Selon Abdoulaye Djibril Diallo, directeur général de EDM, il faut 500 millions de litres de combustible, soit 309 milliards de francs CFA pour que les Maliens aient l'électricité 24 heures sur 24 en cette année 2024. En cette période de chaleur, les Maliens devront encore prendre leur mal en patience. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Sous attaque terroriste depuis près d'une décennie, le Burkina Faso mène une guerre sous diverses formes pour recouvrer l'entièreté de son territoire. L'une des régions les plus touchées par la crise est celle du Sahel burkinabé. Dans cette zone du pays, comme dans bien d'autres, les chefs traditionnels et coutumiers sont en première ligne pour promouvoir le vivre ensemble et la cohésion dans l'espoir d'un retour à la paix. Gildas Da, un de nos correspondants à Ouaga, est allé à la rencontre des leaders traditionnels qui œuvrent dans ce sens.
Devant des ressortissants de la région du Sahel, l'une des plus touchées par le terrorisme au Burkina, Boubacar Diko explique les comportements à avoir pour tendre vers la paix et la cohésion sociale. L'homme est responsable de Faso Kibaru, média en langue nationale qui promeut la cohésion. Il est aussi à la tête d'une association qui a le même but, avec pour zone cible le Sahel burkinabé. Dans ses activités pour la recherche de la paix, les chefs traditionnels figurent en bonne place.
Donc nous ne pouvons pas en tout cas réussir aujourd'hui, la cohésion sociale ou le retour de la paix, en tout cas, sans impliquer les chefs coutumiers et religieux que nous avons. Quand vous prenez d'autres communautés qui sont restées, peut-être à Arbinda, qui sont restées à Markoy, qui sont restées à Gorom, à Seba, mais les communautés qui vivent ensemble, qui ne se parlent pas, et vous partez avec leurs personnes de ressources, naturellement, ça va les montrer une autre image et ça va les amener aussi à réfléchir pour se dire que, bon, on doit aussi, en tout cas, s'asseoir, discuter ensemble et on doit s'entendre pour aussi aller ensemble pour que la paix revienne.
Pour espérer le retour de la cohésion sociale et de la paix tant attendue par les Burkinabés, des chefs traditionnels comme Issa Bangalou, émir de Loudalan, ont pris leur bâton de pèlerin. Loudalan est en plein cœur du cyclone de l'insécurité, mais son chef, désormais basé à Ouaga, se bat pour un avenir radieux.
Qui nous évite même d'aller au chaos. On a des jeunes dynamiques qui sont dans la province, qui veillent dans les différents secteurs. À chaque fois, s'il y a quelque chose, nous, on est informés. Il y a des minutes qui suivent. Et aussitôt, on mobilise les gens pour agir.
Agir pour éviter que la situation n'empire, c'est aussi ce qui est fait dans le Liptako. Là aussi, c'est l'émir qui mène le combat pour les mêmes buts, cohésion sociale et retour de la paix. L'émir Ousmane Amirou Diko a sous sa coupe la ville de Dori et 200 villages au Bamo.
Il y avait des 200 villages, nous renseignons tous les jours ce qui se passe et essayer de dire aux gens, faites attention, ne suivez pas. Parce que nous avons malheureusement oublié des choses. Chef coutumier, fragile. Ça fait une communauté fragile. Une communauté fragile, ça amène des jeunes fragiles. Et un jeune fragile est sans repère. Lorsqu'il est sans repère, il se tourne vers quoi? Vers tout ce qui nous hante en ce moment. Donc c'est une éducation permanente, une sensibilisation permanente des communautés.
L'Émi, dont la zone d'influence est sérieusement touchée par l'insécurité, se bat au jour le jour. Son objectif? Éduquer pour ramener la tranquillité dans la région du Sahel et partant le Burkina entier. Ousmane Amirou Diko est à la tête du conseil des chefferies coutumières du Sahel.
Nous jouons un rôle fondamental. C'est le ciment de notre nation, la chefferie coutumière.
pour l'émir du Liptako, un message demeure à l'endroit des groupes armés terroristes.
Donc, j'appelle les jeunes là à retrouver la raison et à retourner à la maison pour qu'on puisse tous se réunir et bâtir ce pays que nous avons en commun. C'est le seul.
Cri du cœur d'un chef traditionnel à l'image de centaines d'autres Burkinas qui donnent de leur personne et de leur influence pour remettre le pays sur le droit chemin. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Tchad se dirige vers une élection présidentielle censée mettre fin à une transition de 3 ans. Fait marquant, le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby, et son premier ministre Succès Masra sont candidats à ce scrutin qu'une partie de l'opposition considère déjà comme gagné d'avance par le chef de la junte. Comment interpréter les candidatures des deux signataires de l'accord de réconciliation? Comment assurer la transparence du processus électoral au Tchad? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche.
Les électeurs américains se préparent à une nouvelle série de primaires mardi. Le président américain Joe Biden et son rival républicain Donald Trump se sont rendus dans l'État de Géorgie pour organiser des événements de campagne parallèles. Veronica Balderas Iglesias de la VOA récapitule les arguments avancés par chaque camp. C'est un récit de Nanit Talani.
Les libertés américaines seront en jeu en novembre, a souligné le président Joe Biden lors d'un événement de campagne à Atlanta, en Géorgie. Il a rappelé aux électeurs le bilan de son rival républicain, l'ancien président Donald Trump, en matière de droit à l'avortement.
Il est arrivé au pouvoir déterminé à voir Roe v. Wade renversé. En fait, il s'en vante. Eh bien, son souhait a été exaucé et les États adoptent des interdictions qui criminalisent les médecins forçant les victimes de viol et d'inceste à quitter leur État pour obtenir de l'aide.
Mais la Géorgie, selon M. Biden, peut aider à protéger les droits reproductifs des femmes.
Envoyez-moi un Congrès qui soutient le droit de choisir et je vous promets que je rétablirai Roe v. Wade en tant que loi du pays.
M. Trump a fait campagne samedi dans le nord-ouest de la Géorgie où il a vivement critiqué le récent discours de M. Biden sur l'état de l'Union.
Que vous soyez un républicain, un indépendant ou un démocrate désabusé, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder cet horrible discours sur l'état de l'Union. Joe Biden, l'escroc, a parlé de l'Ukraine avant de parler de l'Amérique. Joe Biden ne devrait pas crier sa colère contre l'Amérique. C'est l'Amérique qui devrait crier sa colère contre Joe Biden.
L'ancien président a également décrié les politiques d'immigration de Biden, citant le meurtre de l'étudiante Laken Riley le 22 février. Elle serait morte sous les coups d'un immigrant vénézuélien entré illégalement aux États-Unis.
He was an illegal migrant.
C'était un migrant illégal et il n'aurait pas dû être dans notre pays et ne l'aurait jamais été sous la politique de Trump. Biden applique une politique de laisser tout migrant illégal qui entre aux États-Unis d'avoir une immunité garantie contre la déportation.
Monsieur Biden, qui a utilisé le mot illégal lors de son discours sur l'état de l'Union meurtrier présumé de Madame Riley, s'est par la suite excusé et a défendu samedi son propre bilan en matière d'immigration.
J'ai présenté un plan complet et global pour réparer notre système d'immigration, sécuriser notre frontière, fournir une voie d'accès à la citoyenneté pour les jeunes migrants déjà ici ainsi que leurs familles, les travailleurs agricoles, les travailleurs essentiels qui nous ont aidés à traverser la pandémie et qui font partie des tissus de notre communauté.
Ce que leurs remarques ont en commun, c'est l'urgence pour les électeurs de se rendre aux urnes et les aider à remporter l'investiture de leurs partis respectifs.
Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition réalisée avec la contribution de toute la rédaction. Présentation John Linden, production Michel Joseph. Merci à vous d'avoir suivi et restez connectés sur notre site internet voafrique.com et sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations 24 heures sur 24. À bientôt.